Je porte une casquette rouge, une salopette bleue et des gants blancs. J'ai d'abord été charpentier, menuisier avant de devenir plombier. Héros ordinaire, je suis pourtant une icône mondiale. Sauveur de jeunes filles en détresse, j'aime aussi manger des champignons, me déplacer en sautant, lancer des boules vertes ou rouges et planter des drapeaux dès que j'ai conquis un territoire. Vous ou vos enfants ont pu jouer avec moi pendant des heures. Alors qui suis-je? D'où viens-je? Et pourquoi des années après, ma moustache vous fait-elle encore frémir?
Le monde entier l'attendait. Super Mario All-Stars! Les meilleures aventures de Mario réunies pour la première fois. La foule s'impatiente. Ah mais les premières stars arrivent. Kiwi, Princess Daisy. Est-elle seule? Non, elle est accompagnée de l'excellent Bastoul. Wart et Ostro. Bowser et Heidi. Et attendez, il y a... Oui, c'est lui, c'est Mario! Retrouvez les stars de Mario 1, Mario 2 et Mario 3 et l'inédit Lost Levels dans Super Mario All-Stars!
Et oui, c'est de Mario dont nous parlons aujourd'hui et avec vous, Alexis Blanchet, bonjour.
Bonjour Gerline Mossa-Savoie.
Vous êtes maître de conférence au département cinéma et audiovisuel de l'université Sorbonne Nouvelle. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur les jeux vidéo, j'en cite quelques-uns. Une histoire du jeu vidéo en France, 1960-1991, des labos aux chambres d'ados. C'est sorti aux éditions Pix & Love et vous l'avez coécrit avec Guillaume Montagnon. Et puis vous êtes aussi l'auteur des jeux vidéo cinéma aux éditions Armand Colin, paru en 2012. Alors dites-nous tout, qui est Mario Bros?
Ah, vaste question. C'était drôle cette archive que vous avez passée en entrée qui montre Mario comme une star au début des années 90 dans un document qui est une publicité.
Oui, c'est ça, une publicité officielle, exactement.
Le tapis rouge déroulé comme ça et les personnages de jeux vidéo deviennent des stars. Probablement que le destin de Mario ou l'histoire de Mario, il faut la lier à celle d'une entreprise de jeux vidéo, enfin qui est connue aujourd'hui comme une entreprise de jeux vidéo, qui est une entreprise japonaise qui s'appelle Nintendo et dont peut-être vos auditeurs et vos auditrices ignorent que c'est en fait à la fin des années 70, au début des années 80, une entreprise qui va fêter ses 100 ans. Elle a été fondée à Kyoto en 1889, c'est au départ un petit artisan qui fabrique des cartes à jouer.
Alors ça, je l'ai appris en préparant cette émission, donc Nintendo, au départ, une entreprise de cartes à jouer.
Une entreprise de cartes à jouer qui est vraiment artisanale, qui va se mécaniser au début du 20e siècle, donc commencer à utiliser des machines d'imprimerie pour faire de la carte à jouer. Et puis, le petit-fils du fondateur reprend l'entreprise après-guerre dans un contexte de boom économique au Japon, évidemment. Le Japon s'ouvre à la consommation de masse et Nintendo cherche à se diversifier, d'ailleurs, dans des domaines très variés, une compagnie de taxi, une chaîne d'hôtels, etc. Et finalement, ce qui va faire le succès de Nintendo dans les années 60, c'est le gadget. Voilà, la consommation de masse arrive au Japon et le gadget devient un objet qui est visiblement désiré par les consommateurs japonais et Nintendo développe toute une série de gadgets assez ludiques qui vont tout doucement intégrer de l'électronique. Et à partir de cette électronique intégrée, dans les années 70, Nintendo se dirige vers un nouveau secteur qui est en plein boom, qui commence son histoire marchande aux États-Unis mais qui est très vite repris par quelques entreprises japonaises et se dirige vers le jeu vidéo et donc va développer des périphériques de jeux et des jeux vidéo d'arcade. Et Mario, il est lié à un des succès de Nintendo, qui est un accident, que moi j'aime bien présenter à mes étudiants comme un accident industriel, ou du moins le rattrapage plutôt d'un accident industriel, qui est un jeu qui s'appelle Donkey Kong et qui sort en 1981. À l'origine de Donkey Kong, il y a un premier jeu de Nintendo qui s'appelle Radarscope, qui sort en 79 au Japon, et que Nintendo va importer dans sa nouvelle filiale américaine, qui va être assez importante dans la suite de notre discussion, qui s'appelle Nintendo of America. Nintendo of America est tenu par le gendre du patron de Nintendo, et l'idée c'est de conquérir le territoire américain. Le marché américain. Évidemment, du point de vue européen, il faut tourner la planète à 180 degrés pour avoir l'océan Pacifique face à nos yeux, et puis à l'ouest, le Japon et à l'est la Californie, Seattle, etc. Nintendo envoie 8000 bornes de Radarscope aux États-Unis et ces 8000 bornes n'arrivent pas à trouver preneur aux États-Unis.
Donc c'est quoi Radarscope? C'est un jeu vidéo? C'est un jeu. Ou une console?
C'est un jeu. C'est un jeu vidéo. C'est une borne de jeu d'arcade qui est inspirée d'un succès de 78 qui s'appelle Space Invaders de Taito. Donc un jeu de tir, ce qu'on appelle aujourd'hui un shoot 'em up, un jeu de tir où le joueur dirige un petit vaisseau et tire sur des vaisseaux aliens européennes qui sont face à lui. Alors cette borne, souvent on dit, mais c'est peut-être pas une explication très convaincante, que le jeu est mauvais. En fait, le jeu, quand on le voit, il a des vertus.
Vous y avez joué, vous ?
Graphique. Alors j'ai joué sur émulation ou j'ai vu des vidéos. C'est plutôt un jeu avec des finesses d'animation, etc. Il est probable plutôt que la durée du transport maritime entre le Japon et les États-Unis ait ralenti l'acheminement de ces bornes qui sont arrivées sur le marché américain à un moment évidemment où en quelques mois les progrès visuels, graphiques, sonores sont très importants d'un jeu à l'autre. Et de fait, les bornes sont arrivées, elles étaient déjà un peu démodées.
Ah, c'est fou ça, ça veut dire qu'un échec, déjà au début des années 80, on parle d'accélération du temps, mais en fait on pouvait déjà être has-been en quelques mois, en fait, au début des années 80,
en
termes de jeux vidéo.
Voilà, par rapport à une concurrence qui développe très rapidement et un jeu vidéo qui peut, d'un mois à l'autre, faire des développements techniques, technologiques, graphiques, etc., que les joueurs de bornes de jeux apprécient, puisque c'est vraiment un secteur qui est fait, qui est construit sur l'idée de nouveautés, etc. Ces bornes sont dans les locaux américains de Nintendo of America et on va décider de créer ce qu'on appelle des kits de conversion, c'est-à-dire un petit montage électronique pour introduire un nouveau logiciel dans ces bornes et pour pouvoir exploiter ces 8000 bornes parce qu'il y a un manque à gagner, ça coûte du stockage, on n'arrive pas à les vendre, etc. Et donc c'est le patron de Nintendo qui confie ça à deux personnalités dont on va aussi parler par la suite. Le premier est un ingénieur, il s'appelle Gunpei Yokoi. Le deuxième est plutôt un producer, un producteur, un chef de projet, on va dire. Il
s'appelle un créateur graphiste presque.
Un créateur avec évidemment une formation plutôt graphique, visuelle, artistique. Il s'appelle Shigeru Miyamoto. Et ces deux-là vont devoir réfléchir à une solution de remplacement d'un jeu pour pouvoir faire ce kit de conversion et exploiter ces 8000 machines qui attendent à Seattle. Alors, peut-être on va déjà balayer un peu une idée qui serait celle que, parce que ça va être un storytelling journalistique qu'on va avoir par la suite, que Shigeru Miyamoto a inventé Mario. En fait, on est vraiment dans un contexte industriel qui est celui de répondre à un problème. On a un marché, le marché américain, on a ce kit de conversion et on a des créateurs qui vont surtout être des gens qui vont diriger un projet. En fait, c'est une petite entreprise qui s'appelle Ikegami Tsushunki. Je remercie la Florent Gorge qui, dans les années 2000, qui est un auteur spécialiste, grand spécialiste de Nintendo, qui avait mis ça un peu sur la place publique. On apprend que Nintendo faisait en fait appel à des entreprises extérieures, à des prestataires. Et il est probable que l'essentiel de ce qui fait le succès de Donkey Kong et donc la création de Mario fasse aussi, soit aussi dû à cette petite entreprise. Ils vont décider dans un premier temps de faire un jeu autour d'une licence qu'ils possèdent, qui est la licence Popeye. C'est quelque chose à retenir chez Nintendo, c'est que c'est une entreprise qui travaille avec des ayants droit américains depuis les années 50.
Donc ils utilisent des personnages connus, alors ça aurait pu être Mickey.
Et ça aurait tout à fait pu être Mickey, puisqu'ils ont travaillé avec Disney sur du licensing, sur le territoire japonais, etc. Donc ils ont une connaissance d'une certaine façon des relations du business international et du marché américain. Ils vont développer un jeu dont la traduction littérale serait Popeye et les attaques de tonneaux de bière, et ils vont soumettre ce jeu à l'ayant droit qui est le King Feature Syndicate, hein, c'est-à-dire le syndicat de comic strip qui dispose des droits de cette série dessinée par Segar. Et le rendu visuel ne convainc pas l'ayant droit qui refuse en fait que le jeu soit exploité et Nintendo se retrouve avec un problème.
C'est-à-dire donc avec un autre problème.
La proposition qui était de passer par un personnage populaire rendu populaire par la bande dessinée mais aussi le dessin animé et la télédiffusion des dessins animés du studio Fleischer de Popeye va pas être possible parce que l'ayant droit est pas d'accord. Le personnage est pas assez ressemblant.
Donc ça veut dire, si je vous suis bien, Alexis Blanchet, c'est que Mario, avant de naître, en fait, naît non seulement d'un échec, un retard industriel de livraison des bornes et en plus d'un échec juridique ou esthétique peut-être,
oui,
des ayants droit qui refusent que l'image de Popeye soit utilisée.
En tout cas, ils refusent pas, mais ils trouvent que c'est pas suffisamment ressemblant et que ça va desservir l'image de Popeye.
Donc, déjà, Popeye, c'était encore un personnage vraiment prégnant à l'époque.
Les dessins animés Popeye sont largement télédiffusés. Hein, ils sont
même dans les années 80, je pense que c'était un
dans les années 70 et 80. Oui, c'est un personnage. Robert Altman fait une version de Popeye avec Robin Williams dans ces années-là. Donc, le personnage est encore suffisamment populaire et c'est un bon choix pour le marché américain. Et donc là, on rase la table et on va garder un peu une idée de Popeye. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un, alors je vais pas l'appeler un triangle amoureux parce que c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas il y a trois personnages dans Popeye, Olive Oil et Brutus. Et Brutus et Popeye se battent pour avoir les faveurs de Olive Oil. Et d'une certaine façon, c'est cette structure un peu narrative, cet embryon de narratif qui va faire que chez Nintendo, on va décider d'aller chercher à peu près la même structure narrative, mais dans un autre contenu de la culture populaire qui est King Kong. Dans King Kong, on a le roi Kong, hein, ce singe géant, qui kidnappe une jeune femme et un aventurier part à la rescousse pour libérer cette princesse en détresse. On retrouve quelque chose de tout à fait classique du conte ou du roman.
Donc là, autre solution pour essayer de reconvertir donc ces bornes avec l'histoire cette fois-ci voilà, de Donkey Kong inspiré de King Kong.
Pour trouver une thématique qui correspond. Le jeu est développé à ce moment-là autour de cette thématique et on va créer un petit avatar qui va être ce personnage qui part à la rescousse. Mm-hmm. Il n'est pas le héros de ce jeu, hein, puisque le jeu porte le nom de son antagoniste, Donkey Kong, que tous les efforts graphiques sont portés sur cet antagoniste. Hein, quand vous regardez un écran de Donkey Kong, le sprite, c'est-à-dire la composition de pixels la plus détaillée, la plus amusante, hein, celle qui relève de ressorts qui sont ceux de la comédie, avec des grimaces, avec des œillades qui sont lancées comme ça aux joueurs, etc. C'est donc Donkey Kong qui est vraiment le siège un petit peu de cette attractivité visuelle. Et puis on a quand même cet outil de l'interaction dans le jeu vidéo qu'on appelle l'avatar, ce petit personnage qu'on va pouvoir déplacer de gauche à droite sur l'écran et lui faire gravir des échelles pour atteindre chaque fois le sommet de l'écran et libérer la princesse. Donc on voit que c'est toute une démarche qui n'est pas du tout une intentionnalité où on va créer Super Mario, mais c'est des problèmes techniques, des problèmes de distribution, des enjeux économiques et des solutions qu'on va essayer d'apporter à ces enjeux pour un marché qui est le marché américain.
Et donc, Alexis Blanchet, on peut dire que Mario naît à ce moment-là. Donc, Mario, il naît au début des années 80. On peut dire qu'il a donc 40 ans, parce que c'est quand même pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Non seulement parce que Super Mario a 30 ans aujourd'hui, ce jeu-là, Super Mario Kart, a 30 ans aujourd'hui. Et donc, on se rend compte que Mario Bros a 40 ans, lui, c'est ça.
Alors, si vraiment on veut être précis, on peut dire que Donkey Kong a fêté ses 40 ans l'année dernière, en 1981, que le personnage que l'on appelle aujourd'hui Mario, qui apparaît dans Donkey Kong, ne s'appelle pas Mario à l'époque. Les noms qui vont lui être donnés vont être différents. On sait que les Américains avaient tendance à l'appeler Jumpman, ce qui veut dire...
Parce qu'il saute,
voilà. Donc, qui était d'une certaine façon un nom rattaché à sa fonction et la manière dont il interagit dans l'espace de jeu. On sait que du côté Nintendo, on aurait voulu l'appeler Mister Video, voilà, pour d'une certaine façon en faire une incarnation du jeu vidéo. Hein. Le terme vidéo au début des années 80 peut être encore un terme qui recouvre le secteur du jeu vidéo. Hein. On parle souvent d'une borne de jeu vidéo comme un vidéo, par exemple, dans les usages communs. Et puis, on apprend aussi dans un échange organisé il y a quelques années par le président de Nintendo avec des développeurs de jeux de l'époque de Donkey Kong, que dans les studios de Nintendo, on lui avait donné un nom un peu curieux qui était Hosan. Et Hosan veut probablement dire quelque chose qui pourrait se traduire comme le type entre deux âges, le quadra. Mais voilà,
un type, quoi. Un gars.
Type, voilà. Vraiment sans qualité particulière. Donc, ce qui veut vraiment dire que au départ, c'est vraiment quelque chose d'un peu annexe, ce petit personnage. Il n'est pas fait pour devenir l'emblème de la marque, ce qui va devenir par la suite. Et il faut vraiment avoir ça en tête sur... Parfois, on a une idée de l'industrie qui aurait des visions, des intentionnalités, etc. Ou qu'il y aurait des grands créateurs qui... Non, là, on a besoin d'un petit personnage et on a besoin d'un petit personnage qui incarne le mouvement dans ce jeu-là.
À l'origine, Mario était un charpentier. Et puis quand on a créé le jeu, il y avait des monstres qui sortaient des tuyaux. Et qui est mieux placé pour s'occuper de tuyauterie ? Naturellement, c'est le plombier.
40 millions d'exemplaires, Super Mario 3 était le jeu le plus vendu au monde. Il a fait la renommée de Miyamoto, décoré ici en 2006 en France. Modeste, le créateur avoue des recettes déconcertantes de simplicité.
Tout vient de mes idées. Je me dis, tiens, ce serait bien de chevaucher un dinosaure, et on a créé Yoshi. Et puis, ce serait super de pouvoir voler, et on a créé un chapeau avec des ailes.
c'était la voix de Shigeru Miyamoto qui expliquait comment il avait créé Mario. Alors vous nous avez raconté, Alexis Blanchet, que c'est quand même plus complexe que ça, quand même, sur cette création pas si individuelle que ça. Mais ce qui est frappant dans cette archive, c'est le fait qu'il soit, comme le dit d'ailleurs le journaliste, hein, une simplicité déconcertante. On a envie que Mario chevauche un dinosaure, on va créer le personnage de Yoshi. On a envie qu'il vole, on va lui faire un chapeau avec des ailes. Et c'est vrai que peut-être que ce qui explique le succès de Mario, justement cette simplicité, le fait qu'il ait été créé un peu comme ça, on pourrait dire d'ailleurs que c'est un héros ordinaire, c'est peut-être cette simplicité-là qui explique ce succès. On a pu projeter sur ce petit personnage de rien tout un ensemble de fantasmes, un imaginaire, nos propres vies assez banales.
Oui, probablement parce que c'est un avatar au départ et qu'un avatar, ça sert les besoins du jeu et particulièrement dans les jeux vidéo, l'exploration de l'espace et le rapport à l'espace de jeux vidéo. La position, la posture de Shigeru Miyamoto est assez intéressante et elle mériterait probablement d'être analysée. Les premières fois où on entend parler de Miyamoto dans les médias, c'est pendant le gros succès des consoles de jeux Nintendo au début des années 90 et il est probable que Nintendo a tout intérêt à cette époque plutôt à le cacher, ce type-là, parce que c'est un producteur qui a plutôt une vision intéressante des choses et du jeu vidéo, et que probablement en l'exposant, elle risque aussi peut-être de se le faire piquer d'une certaine façon. Mais voilà, il faut aussi des visages pour incarner et probablement aussi d'interpréter un rôle de créateur, alors qu'on a quand même des logiques très collectives d'une certaine façon autour de la création de Mario et l'exploitation de Mario. Alors, il y a un point sur lequel je voulais revenir, parce qu'on a parlé de ces premiers noms de Mario, et puis d'où vient le Mario finalement.
Qui semble en fait un prénom justement aussi assez simple, assez banal, c'est-à-dire que c'est pas Jumpman, c'est pas super-héros, ça résonne pas avec Donkey Kong, il y a rien de percutant en fait dans le prénom de Mario.
Oui, alors on a deux hypothèses dans les recherches qui ont été faites. Il y en a une qui est donnée par un ouvrage journalistique de David Sheff au début des années 90 et qu'on retrouve très souvent. Ce serait qu'à Nintendo of America, on sous-louait des stocks et des locaux à un entrepreneur qui s'appelait Monsieur Mario Segali, et que la ressemblance entre ce petit personnage de Jumpman et ce monsieur avait fait que on s'était mis à appeler le personnage Mario et que la proposition avait été faite et avalisée d'une certaine façon par la maison mère au Japon. Il y a une deuxième hypothèse qu'on trouve dans les propos d'un créateur de jeux vidéo de chez Nintendo qui s'appelle Eiji Aonuma, qui est quelqu'un qui a travaillé avec Miyamoto et qui, dans les années 2000, dit mais en fait, Monsieur Miyamoto avait choisi Mario parce que c'était l'abréviation de marionnette, hein, et que d'une certaine façon, ça renvoyait à cette fonction de l'avatar que parfois on rapproche d'un peu d'une marionnette numérique dans le sens où on la dirige un peu selon son bon vouloir. Je ne sais pas ce qui est du vrai et du faux là-dedans, mais ce qui est certain, c'est qu'à partir de 1982, il y a un nouveau jeu autour de Donkey Kong qui est réalisé, il s'appelle Donkey Kong Junior. Cette fois-ci, les rôles sont complètement chamboulés. Donkey Kong est en cage. Mario est un dresseur assez féroce qui le maintient en cage, donc il devient l'antagoniste.
Rôle inversé.
Voilà, et un petit singe, le fils de Donkey Kong Junior, part à la rescousse de son père pour libérer son père. Et Mario est un antagoniste qui est nommé Mario dans ce jeu-là de 1982, donc c'est la première fois que le terme apparaît in-game, d'une certaine façon, dans l'œuvre vidéoludique.
Donc il a vraiment lui-même 40 ans cette année.
Voilà, donc le baptême du personnage et l'association entre le prénom et le personnage, ce sera 82, avec tout de même une observation, c'est-à-dire que Mario, pour un japonais, c'est pas forcément le prénom le plus simple à prononcer, puisqu'il y a ce R un peu guttural qui est pas très courant dans la langue japonaise. Et donc, de fait, en avalisant ce nom-là, c'est aussi peut-être dire les ambitions qui sont celles de Nintendo de pouvoir imposer ces personnages, ces imaginaires au monde occidental, aux États-Unis et en Europe, en choisissant un nom vraiment latin, pour le coup, italien, pour ce petit personnage de jeu vidéo.
Et justement, parmi les hypothèses que vous n'avez pas évoquées, Alexis Blanchet, peut-être n'en est-elle pas une, il y a quand même cette hypothèse justement de mélanger des cultures, c'est-à-dire que c'est un personnage conçu au Japon qui doit envahir le marché américain, qui a quand même, il semble venir être issu d'une culture européenne, latine, avec ce prénom. Donc, est-ce que ça, c'est pas aussi, en fait, prendre une hypothèse de prendre un prénom qui symboliserait, en fait, ce brassage de culture ?
En tout cas, ce qui est assez certain, c'est que les industries du divertissement japonaises, à partir des années 80, commencent largement à se penser comme des industries qui vont produire pour le monde. Et Mario lui-même possède toute une série d'éléments qui appartiennent à la culture populaire occidentale. Donkey Kong, qu'on a évoqué par exemple autour de King Kong. Hein. King Kong, c'est le cinéma d'épouvante des années 30. C'est une figure qui est remise au goût du jour en 76 avec le film de John Guillermine. C'est aussi un personnage qu'on trouve dans les Kaiju Ega, les films de grands monstres japonais. Le Super Mario Bros. De 1985, qui est conçu en exclusivité pour la console de jeux vidéo de Nintendo. On y trouve des éléments qui peuvent rappeler Alice au Pays des Merveilles, par exemple, avec ces champignons qu'on mange et qui nous font grandir. On y trouve parfois des haricots magiques qui poussent et qui nous amènent dans des mondes dans les nuages, un petit peu comme dans le conte britannique Jack et le haricot magique. Donc on a toute une série d'éléments. William Oduro, qui a fait une histoire de Mario, voit même lui des éléments qui renvoient à un conte chinois qui est le voyage en Occident, par exemple, la légende du roi singe. Donc on a ici quelque chose qui relève, mais un auteur qui s'appelle Andrea Babich le dit à propos de Donkey Kong, il dit c'est un patchwork multiculturel.
À partir de Mario ou Donkey Kong
À partir de Donkey Kong, oui. Mais qui s'applique ensuite sur ce que peuvent produire Nintendo et la capacité des industries japonaises à s'emparer par exemple des univers d'Heroic Fantasy et à les redéfinir à partir de genres de jeux vidéo qu'on appelle aujourd'hui le JRPG, le jeu de rôle japonais. Donc probablement qu'il n'est pas conçu avec cette intentionnalité, mais en tout cas il a les moyens de pouvoir être exporté au-delà des frontières du Japon, et il le sera d'ailleurs très largement.
Oui. Et puis je reprends ce terme, Alexis Blanchet, de simplicité qu'on entendait dans l'archive. Effectivement, la tête de Mario, la bouille de Mario, c'est très simple en fait. C'est une casquette, c'est une moustache qui écrase la moitié de son visage, il est petit, il a une salopette bleue, il a des gants blancs. C'est un personnage qui est très repérable et puis qui est très facile en fait à se figurer.
Oui, et là aussi, c'est les contraintes techniques très clairement qui s'imposent sur le design de cet avatar dans le jeu Donkey Kong de 81. Il y a très peu de pixels de hauteur pour figurer ce personnage.
Ah, donc c'est vraiment une technique qui a engagé cette esthétique-là.
Prenons-le de la tête aux pieds. Une casquette, que nous dit Miyamoto et ses co-créateurs, on a mis une casquette à ce personnage parce qu'on savait qu'il allait courir et qu'un personnage qui court tête nue a les cheveux qui sont au vent et on aurait dû animer ses cheveux et ça aurait été une difficulté supplémentaire qu'on voulait pas s'imposer, donc on lui a mis une casquette. Pourquoi on lui met une moustache? Parce que la moustache permet de mieux lire le profil du visage et de bien séparer le nez de la bouche sur un nombre de pixels qui est extrêmement limité. Pourquoi la salopette? Parce que la salopette, elle permet un aplat de couleurs qui va permettre au mouvement des bras d'être tout à fait visible sur les flancs du personnage, ce qui nous donne en fait l'idée que le personnage est vraiment pensé autour de la notion de mouvement. Et c'est vraiment le mouvement qui intéresse ici les designers. Ils vont pas souhaiter designer un petit personnage sympathique et rondouillard en salopette, mais les contraintes techniques vont les amener à ce résultat-là, qui ouvre ensuite sur toute une série d'interprétations. Dans votre archive, on nous dit au début c'était un charpentier. Bah oui, on est dans un imaginaire qui est tiré de King Kong, c'est-à-dire New York. C'est-à-dire les gratte-ciels, c'est-à-dire la fameuse photo, par exemple, de ces ouvriers lunchtime atop a skyscraper, où on voit des ouvriers les pieds ballants en hauteur. C'est le cartoon américain de Tex Avery ou de Tom et Jerry, où on a ces courses-poursuites sur des échafaudages avec ces poutrelles métalliques rouges. D'une certaine façon, il y a tout cet univers qui est charrié et qui permet au personnage de se déplacer dans cet espace sur la verticalité des écrans. Et puis dans les jeux suivants, le Super Mario Bros. De 1985, cette fois-ci, d'être plutôt sur un déplacement de manière horizontale. On appelle
donc
ça
de profil.
De profil, ce qui correspondrait à un travelling horizontal au cinéma. Ça s'appelle un scrolling horizontal en jeu vidéo. C'est un défilement de l'écran qui demande un petit peu plus de capacité de calcul qu'un défilement vertical, puisque le défilement vertical, il suit le trait du canon à électrons sur l'écran. Et ça permet là aussi d'ouvrir des espaces. Donkey Kong le faisait déjà, mais tableau par tableau, 4 tableaux pour pouvoir arriver jusqu'à la fin du jeu, puis un effet ensuite de boucle où on continue de jouer. Avec Super Mario Bros. En 85, cette fois-ci, on est dans des mondes. C'est que de cette manière que sont présentés
chacun des... Ça, c'est nouveau. C'est aussi Mario qui charrie, en fait, ce nouveau langage, ces nouveaux dispositifs de monde.
En tout cas, il en offre une synthèse très efficace, qui commercialement va rencontrer le succès, qui fait que ce jeu jeu de 85 continue d'être à jouer, d'être joué à
encore
la fin
aujourd'hui.
Encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a des speedrunners, des gens qui essayent de le terminer le plus rapidement possible,
ah oui,
avec un record du monde, voilà, qui chaque tous les 6 mois gagne quelques centièmes. Mais là, je crois qu'on est vraiment arrivé au maximum qu'on pouvait faire. Non, le Super Mario Bros de 85, il est toujours dans cette idée de mouvement. Il appartient à un genre qui s'appelle le jeu de plateforme, parce que depuis Donkey Kong, eh bien, ces jeux sont architecturés, l'espace de jeu est architecturé avec des plateformes sur lesquelles on saute et on se déplace, et il permet au personnage de découvrir des mondes, d'explorer des mondes, du monde 1 à 8 avec 4 sous-niveaux, et d'affronter des ennemis un peu effrayants comme le fameux Bowser qui est créé pour ce jeu de 85.
Donc, si je vous suis bien, Alexis Blanchet, Mario, donc c'est quand même des sauts, des plateformes, il s'agit d'éviter des obstacles, il s'agit d'avaler aussi des objets pour devenir invulnérable, et puis il s'agit aussi quand même peut-être d'incarner le bien, il s'agit de sauver une jeune femme, il s'agit de s'opposer aux méchants, à Bowser.
Oui, hein, donc
il y a quand même une morale un petit peu.
Il y a quand même une
morale.
C'est
pas juste du jeu, de l'esthétique.
Alors, on est sur une morale assez simple, on est dans une logique assez patriarcale aussi, hein, d'une certaine façon.
Oui, sauver la jeune fille en détresse.
C'est une jeune fille en détresse, c'est on pourrait même pas parler de récit, hein, on est vraiment sur une légère trame narrative qui va permettre de justifier l'exploration de l'espace, et puis on affronte des monstres qui sont d'ailleurs pas si terrifiants que ça, hein. C'est vrai qu'on affronte des tortues, par exemple, dans le jeu de 85, ou des champignons, alors qui ont un peu les sourcils froncés, mais qui ont pas l'air si méchants que ça, et on progresse, on avance pour affronter Bowser en fin de niveau. C'est un plaisir du déplacement, c'est presque parfois un plaisir un peu chorégraphique, hein, qu'on a quand on déplace cet avatar, parce qu'on rebondit, parce qu'on a des vitesses qui peuvent être différentes, parce que parfois le plus grand danger c'est nous-mêmes, hein, dans les erreurs de manipulation.
Oui, on va aller trop vite.
Voilà, on veut aller trop vite, on prend pas suffisamment le temps, donc c'est toute une question de rythme, et c'est tout un plaisir, un moment aussi, qui est celui de maîtriser cet avatar dans l'espace, et puis c'est aussi un plaisir de la découverte. Super Mario Bros, le jeu de 85, est fourbi de petites surprises qu'on peut trouver ça et là, des blocs invisibles qui se révèlent quand on saute et qui nous donnent une option intéressante, des tuyaux qui étaient évoqués dans votre archive qui nous permettent d'aller dans des salles secrètes ou dans des niveaux secrets, et puis les fameuses warp zones, c'est-à-dire ces passages qui permettent d'aller d'un monde à l'autre.
Thank you. Le jeu est une sorte d'assaise. Il suppose certes la volonté de gagner, en utilisant au mieux ses ressources et en s'interdisant les coups prohibés. Mais il exige davantage. Il faut enchérir de courtoisie sur l'adversaire, lui faire confiance par principe et le combattre sans animosité. Il faut encore accepter d'avance l'échec éventuel, la malchance ou la fatalité, consentir à la défaite sans colère ni désespoir. Qui se fâche ou se plaint se discrédite. En effet, là où toute nouvelle partie apparaît comme un commencement d'absolu, rien n'est perdu. Et le joueur, plutôt que de récriminer ou de se décourager, a lieu de redoubler son effort. Le jeu invite, et accoutume, à écouter cette leçon de maîtrise de soi, et à en étendre la pratique à l'ensemble des relations et des vicissitudes humaines où la concurrence n'est pas désintéressée et où la fatalité n'est pas circonscrite.
C'était la voix de Roger Caillois, le sociologue, hein, auteur des Jeux et les Hommes, qui, là, on entendait sa voix, qui date de, cette archive date de 1961. C'est une archive qui vous intéresse en particulier, Alexis Blanchet, parce qu'elle vous permet aussi de développer cette question et d'y répondre à quel type de jeu on joue avec Mario, en fait. Est-ce que c'est vraiment le pur plaisir du jeu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, où il s'agit juste de faire bouger un personnage dans l'espace?
Alors, Mario va s'adapter à différents types de jeux vidéo d'une certaine façon. Après Donkey Kong Junior, il a son propre jeu qui s'appelle Mario Bros, qu'on n'a pas évoqué, et puis Super Mario Bros.
C'est quoi la différence entre tous ces jeux, en fait?
Mario Bros est un jeu d'arcade à deux joueurs, ou un ou deux joueurs, on est sur un écran fixe. Super Mario Bros est un jeu de plateforme sur lequel on explore des espaces, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que on voit que chez Nintendo, probablement Miyamoto demande à d'autres équipes qui travaillent sur des logiciels là-bas d'introduire son personnage, parce que les assets graphiques, c'est-à-dire les lignes de code qui sont disponibles pour l'animé, sont disponibles, et donc ça va faire qu'il y a tout doucement une présence du personnage qui va se faire dans la production de Nintendo. Et parfois même, je pense presque sur la forme de l'humour un peu potache. D'une équipe à l'autre, on aime se faire des blagues, et tiens, on va prendre le personnage de Miyamoto pour le mettre. Ce qu'il y a, c'est que on évoquait Mario Kart ensemble. À partir d'un certain moment, Mario devient une figure de proue un peu de la production Nintendo et va s'adapter à différentes formes de jeux. On a les jeux de plateforme qu'on connaît bien, qui vont évoluer d'ailleurs avec les évolutions techniques. Ils sont en deux dimensions dans les années 80 et début 90. Ils passent en trois dimensions à partir de la deuxième moitié des années 90. Et puis, c'est des simulations sportives, le jeu de course, qui d'ailleurs, Mario Kart au départ est pas du tout pensé pour être un jeu autour de Mario, hein. C'est une simulation de course qui est produite chez Nintendo. Puis d'un coup, quelqu'un dit, mais ça pourrait être intéressant de mettre les personnages de Mario dedans et d'utiliser la popularité qu'ils ont pour valoriser ce personnage, ce jeu, pardon, et probablement lui donner un aspect un peu plus convivial et sympathique.
Et de fait, Mario Kart, ça cartonne.
Mario Kart cartonne, mais à l'origine du projet, il n'y a pas du tout l'idée de faire un jeu de cartes avec Mario. À l'origine du projet, il y a utilisé les assets d'animation graphique d'une console qui s'appelle la Super Nintendo. Autour, si vous regardez les premières images des prototypes de Mario Kart, c'est des petits pilotes de cartes qui sont qui n'ont rien à voir. Et évidemment, quand l'idée arrive que quelqu'un met sur la table l'idée de mettre Mario dedans, d'un coup, ça donne une ambiance un petit peu différente de cartes.
Parce que ça veut dire que Mario était déjà devenu une mascotte, en fait. C'est-à-dire il avait un succès qui permettait à un jeu de devenir un succès.
Voilà, probablement que Nintendo se rend compte de ça. Alors, je reviens quand même à Roger Caillois, parce que c'est un plaisir de l'entendre. Et puis, moi, dans mes cours sur les approches théoriques du jeu, on ne peut pas faire l'économie de Roger Caillois, qui est vraiment quelqu'un qui propose ce qu'il appelle quatre impulsions du joueur. Voilà, le joueur, s'il joue, il va chercher quatre choses différentes. Il va chercher de la compétition, l'agone, ce que Caillois appelle l'agone. Il va chercher le fait de soumettre son destin au hasard, l'aléa. Il va chercher du vertige, l'e-lynx. Les enfants qui aiment les tours de manège, par exemple, sont dans des jeux d'e-lynx. Et puis, il va chercher du mimicry, c'est-à-dire le plaisir plaisir d'interpréter un personnage. Et quand on confronte cette typologie des impulsions du joueur au jeu vidéo, bah, y a des impulsions qu'on retrouve très, très largement dans le jeu vidéo. Et les jeux Mario correspondent, par exemple, très largement à des jeux d'agone. Même dans un jeu de plateforme, on est un petit peu en opposition avec un univers, un environnement qui est assez hostile, hein, d'une certaine façon. Il y a des trous, il y a des crevasses, il y a des différentes manières de tomber dans le vide, de se faire brûler, etc. dans les jeux Mario, et le joueur est un peu en opposition avec le système. Et puis, avec certains autres jeux Mario, Mario Kart par exemple, on est aussi dans des jeux de compétition, mais face à d'autres joueurs qu'on va affronter à travers le jeu vidéo. La dimension de Mimikry, d'interprétation, on pourrait la discuter. C'est vrai qu'il y a un plaisir d'être dans ces mondes imaginaires, ils sont colorés. Bah, on l'avait dans l'archive tout à l'heure, on veut chevaucher un dinosaure au début des années 90. Bah, Mario permet d'avoir ce plaisir de chevaucher et d'être dans le Mimikry.
Et puis il y a aussi le plaisir, par exemple, je pense à Mario Kart notamment, mais aussi peut-être dans les derniers développements des jeux Mario, le plaisir aussi de pouvoir choisir d'être un autre personnage, mais faisant partie de l'univers Mario.
Voilà.
Donc par exemple, je préfère... Bébé Peach pour conduire une moto dans Mario Kart. Donc là, il y a le plaisir qu'on retrouve d'interpréter un personnage, de
l'incarnation, de se dire je préfère ce personnage à ce personnage-là. Alors parfois, ça va dépendre des joueurs, les jeunes enfants parce qu'ils ont un attachement plutôt à telle ou telle figure, et puis les joueuses et les joueurs un peu plus pros parce que avec Bébé Peach, on a de la vitesse,
par contre, on n'a pas de l'endurance.
Voilà, je vois que vous êtes Géraldine, une excellente joueuse de Mario Kart.
C'est ça. Je ne prends donc pas Bébé Peach.
Voilà, et à ce moment-là, c'est plutôt la gaune, d'une certaine façon, qui va vous pousser à faire ce choix-là, plutôt que celui de vos enfants qui vont préférer, parce qu'il y a un attachement affectif à un personnage, et qui seront plutôt à ce moment-là dans le Mimikry. Donc, d'une certaine façon, on peut reprendre cette typologie de caillois, hein, qui date de bien avant les jeux vidéo, pour voir que les joueurs vont chercher différentes choses autour des jeux Mario, et que en faisant du Mario Kart, en faisant du Mario Tennis, en faisant du Mario Golf, en développant toute une gamme de jeux depuis le début des années 90, autour de son personnage devenu un peu emblème de la marque, Nintendo répond à ses aspirations et à ses recherches de différentes impulsions chez les joueurs de jeux vidéo.
Mais ce qui veut dire que ça n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait pas d'intentionnalité. Là, il y a vraiment quand même l'idée de développer plein d'univers qui vont correspondre aux différentes attentes des jeunes et joueurs et joueuses. Mais c'est aussi une manière peut-être de développer, est-ce qu'on peut dire quand même, comment le dire ? En fait, Mario n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'il propose quand même des jeux de compétition, des jeux de déploiement sur un espace, de rapport à l'espace qui n'est pas du tout neutre.
Alors, c'est un personnage consensuel, ça c'est assez certain. Il est plutôt sympathique, on l'a dit tout à l'heure, plutôt porteur de valeurs positives.
C'est le héros ordinaire.
C'est un héros ordinaire, ou c'est quelqu'un qui va relever des logiques sportives, de compétition, de fair play, quoique Mario Kart parfois autour des solutions que les game designers ont proposées, pas très fair play, hein, quand on se reçoit une carapace bleue et qu'on est en tête, on le découvre. Non, alors, il se trouve qu'il y a probablement un phénomène médiatique en 1990 qui va un petit peu changer la donne et la perception des jeux vidéo, et Mario en fait d'une certaine façon un peu partie. C'est une étude de notoriété qui s'appelle le Q Ratings, et c'est une information reprise par la presse, qui nous apprend que les enfants américains reconnaissent davantage Mario que Mickey Mouse. Et de fait, on est dans un contexte aux États-Unis où, dans un arrière-fond un peu de xénophobie vis-à-vis du Japon, on s'inquiète un petit peu de l'arrivée de ces imaginaires portés par des entreprises japonaises sur le territoire américain. Ça se voit dans la presse, dans le New York Times, vous pouvez trouver des expressions en 90 comme Nintendo Maniacs ou Nintendo Kids ou Super Mario Maniacs qui sont utilisés pour désigner les petits américains qui jouent aux jeux vidéo. On est dans un moment où il y a une panique morale, hein, ce qu'on appelle une panique morale qui est en train aussi de se déployer autour des jeux vidéo. De quelle valeur il pourrait être porteur, etc.
Donc, pas tant donc l'addiction aux écrans comme on a maintenant, mais plus là, véritablement, l'idéologie qui se déploie à travers ces plateformes.
Bah, quels seraient les effets de ces jeux vidéo ? Quand même, ces gamins sont tout le temps devant leurs écrans à jouer. Quel est vraiment le contenu ? Certains journalistes vont parler de colonisation des esprits, par exemple, par Nintendo. Bon. Alors moi, il y a un chercheur que j'aime bien sortir de ma poche à ce moment-là, c'est Henry Jenkins. Jenkins, il va va réfléchir un peu à la question des...
C'est qui, c'est un chercheur spécialiste américain, des médias, de la communication.
Voilà, qui est un professeur en Media Studies. Et Jenkins a l'intérêt de se pencher souvent très tôt un peu sur les phénomènes émergents. Et au début des années 90, il dialogue avec une sociologue qui s'appelle Mary Fuller. Et il fait un double constat. Il dit, bon, il faut expliquer le succès de ces jeux vidéo. Moi, j'ai un fils qui joue à la console Nintendo, nous dit Jenkins. Qu'est-ce qui fait le succès de ces jeux-là? Et pour lui, il voit deux voies d'explication. D'une part, il dit il y a des changements urbains qui font que les enfants sont plus dans la ville.
Ils peuvent moins sortir parce que c'est plus dangereux, voilà, parce que c'est moins facile de jouer
dehors. On considère que c'est plus dangereux, qu'on considère qu'il y a de la circulation automobile, qu'il y a des risques de kidnapping, etc. Alors, je veux dire, constat qu'on peut faire ensemble en sortant de la maison de la radio. Je veux dire, on cherche à la sortie des écoles des enfants qui jouent dans la rue. On n'en a plus dans la rue. Donc, Jenkins nous dit les changements urbains ont fait que les enfants ont été, d'une certaine façon, expulsés de la rue. Ils sont plus dans la rue. Première chose. Et deuxième chose, on a une socialisation des enfants qui est très genrée, qui passe par le jeu, et on a une socialisation des garçons qu'il appelle la boys culture, qui est une socialisation qui se fait vers l'extérieur. Jenkins nous dit les jeux des petites filles, c'est des jeux d'intérieur. Elles jouent à la dinette, elles jouent à la maman. Les jeux des garçons, c'est des jeux d'extérieur. Ils jouent à construire des cabanes dans les bois. Ils jouent à construire des barrages sur des ruisseaux. Mmh. Ils jouent dans le backyard, c'est-à-dire toute cette zone dans les maisons américaines, les cours qui sont à l'arrière des façades des maisons. Et il nous dit, voilà, les jeux vidéo, en fait, vont nous permettre de résoudre cette équation intenable. D'un côté, on veut confiner les enfants chez eux parce que la ville est dangereuse. Et de l'autre côté, on dit aux garçons, pour être un garçon, il va falloir que tu explores des espaces et que tu mettes ton empreinte dessus.
Donc, jeu vidéo.
Le jeu vidéo fait la synthèse de cette situation complètement contradictoire. Dans un jeu vidéo Mario, on l'a dit, on traverse des espaces, mais on ne veut pas seulement que les traverser. On s'empare des valeurs qui sont dans ces espaces. Les joueurs et les joueuses de Mario, Super Mario Bros. En 85 savent que dans les petites cases avec un point d'interrogation, il y a en général une option, il y a en général une petite pièce de monnaie, donc c'est vraiment une petite valeur. Et Jenkins nous dit finalement, ces jeux poussent les joueurs à se comporter comme des colons virtuels. Ils arrivent dans un espace, ils le traversent, s'emparent des valeurs qui sont dedans, écrasent tout ce qui leur font face.
L'affrontent.
Et à la fin d'un niveau de Mario, bah là, les joueurs et les joueuses voient bien, qu'est-ce qu'on fait? On saute sur un mât, on descend les couleurs de Bowser, et puis on avance dans un petit château, et on monte les propres couleurs de Mario. Vraiment, on a mis sa marque sur ces environnements numériques.
Mais ce qui veut dire que Mario, loin d'être donc consensuel et même universel, et non seulement l'image typique du colonisateur mâle.
Est-ce qu'on peut
aller jusque là? Parce qu'on a du mal à croire en voyant Mario. Bon, voilà, c'est un mec, mais c'est un petit mec.
Ouais, mais c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours regarder quelles sont les mécaniques qui sont à l'œuvre. Évidemment, c'est un personnage sympathique, consensuel, familial. Le rôle de Nintendo of America est probablement prédominant là-dedans, dans cette idée d'avoir poussé Mario. Parce que on voit qu'au Japon, ils avaient même prévu une petite mascotte pour leur console de jeux vidéo Nintendo. Mais les consommateurs ont préféré se tourner vers Mario. Donc il y a d'un côté l'apparence de ce personnage, plutôt sympathique. Le fait qu'il résout un problème. On confine les gamins et les garçons, mais on leur dit que c'est quand même à l'extérieur qu'ils vont devenir des garçons, et on leur redonne des espaces à explorer. Deux lectures chez Jenkins, cette idée que le jeu vidéo, il faut pas lui taper dessus d'une certaine façon, parce que c'est plutôt la boys culture qui est à remettre en question. Pourquoi les garçons, pour devenir des garçons, ils doivent forcément montrer des bras, être un peu viril et avoir des jeux de d'agone par exemple, ou des choses comme ça dans des espaces extérieurs? Peut-être il y a des choses à faire. Et de l'autre côté, et au début des années 90, dans ce petit dialogue avec Mary Fuller, il le dit, il y a peut-être aussi quelque chose, une lecture qu'on pourrait faire comme la lecture d'un pays, le Japon, qui a été un empire, qui a dominé une partie de la Corée, de la Chine, et qui d'une certaine façon, comme une sorte de refoulé, va remettre dans ses jeux des logiques de colonisation de l'espace qui fonctionnent, parce que évidemment elles sont plutôt attractives, c'est plutôt des mécaniques de jeu qui fonctionnent bien et dans lesquelles on se plaît à jouer.
Jusque-là, Alexis Blanchet, on a parlé de Mario comme d'un personnage ou du moins comme un avatar de jeu vidéo. Il faut maintenant qu'on écoute deux déclinaisons de Mario, non plus en avatar, mais en personnage de fiction.
Que connaît-il les deux frères plombiers? Héros, pas héros dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Super Mario Bros.
Alors ça, c'était pour le dessin animé spécial Super Mario Bros. Qui a été diffusé sur France 2 le 23 juin 1993. Donc j'imagine à l'époque encore Antenne 2, je crois. Et on va écouter tout de suite maintenant la bande-annonce du film Super Mario Bros. Sorti la même année en 93.
Ils sont frères. Ils sont plombiers.
Ah oh non. Mario. Luigi.
Ils sont sur la piste. D'une princesse kidnappée et d'un mystérieux fragment de météorite.
C'est magnifique.
Quiconque possède cette pierre détient le pouvoir, devient maître absolu de l'univers.
Apportez-moi la pierre. Viens la chercher, vieux tétard.
Mais il leur faudra sauver la princesse.
Luigi. Mario, attention.
Super Mario Brothers. Ceci n'est pas un jeu.
Oui, ceci n'est pas un jeu. Et d'ailleurs, hein, en 93, on peut dire, Alexis Blanchet, que c'est un petit peu la fin quand même de l'âge d'or de Mario Bros. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un âge d'or fin 80, tout début 90. Et puis bon, le passage à l'écran, à la fiction, ne s'est pas avéré très, très fructueux, couronné de succès.
Le film a laissé quelques souvenirs à des spectateurs de l'époque.
Oui, mais quel type de souvenirs?
Moi, pour en parfois l'accompagner, ce film-là, parce que de temps en temps, il est rediffusé, des gens, et moi le premier, sommes allés le voir avec plutôt de l'enthousiasme, et on était au contraire assez ravis de voir Mario sur un écran de cinéma. C'est une forme de reconnaissance de ce qu'était Mario, de l'avoir sur un écran de cinéma, que le cinéma consacre de l'énergie, du temps à Mario. Sur ce que vous dites par rapport à la peut-être baisse de forme de Mario au début des années 90, c'est probablement le fait qu'il est très lié à Nintendo et que Nintendo va voir arriver un concurrent en la personne de Sony avec sa PlayStation à partir de 94-95 et que Sony va dominer le marché de la console de jeux vidéo domestique à partir de cette période jusque dans les années milieu des années 2000.
Donc Sonic, pour dire, c'est le petit personnage, c'est le petit hérisson.
Pardon, Sony.
Ah, oui, Sony,
le constructeur, voilà. Sony.
Et il y a le personnage aussi de Sonic.
Alors il y aurait le personnage de Sonic qui est une sorte de réponse à Mario au début des années 90, mais bon, Sega devient un constructeur qui disparaît très rapidement à la fin des années 90. Non, là je parle vraiment de Sony qui sort la PlayStation et la PlayStation domine le marché. Nintendo étant incarné par Mario, de fait, peut-être Mario est un peu plus invisibilisé à ce moment-là. Les deux archives que vous avez passées sont tout à fait illustratrices de ce que devient un personnage dans le monde des conglomérats du divertissement américain et probablement le poids de Nintendo of America sur les destinées, je dirais, intermédiatiques de Mario. Nintendo of America est à la manœuvre, par exemple, pour faire un film Mario et pour pousser les décideurs à Kyoto, à la maison mère, à signer un film Mario. Ils sont également très actifs pour nourrir la tranche horaire jeunesse américaine du Saturday morning, la tranche horaire pour les enfants aux États-Unis, c'est le samedi matin, avec des contenus qui sont liés au personnage Nintendo et entre autres au personnage Mario. Et c'est là qu'on bascule, c'est-à-dire qu'on avait un avatar, une sorte de coquille vide qu'on déplace dans un espace avec un plaisir physique, d'expérience de l'avatar dans l'espace de jeu, et évidemment tous ces contenus accompagnés par des bandes dessinées, qui ont d'ailleurs pour certaines été éditées en France, accompagnés par toute une série de contenus médiatiques, vont commencer à construire quelque chose qui va plus être un personnage, avec une relation avec son frère Luigi, par exemple une relation très paternelle dans le film, ça va pas être un personnage dont on va développer une intériorité à la manière, je sais pas, d'un personnage de Rob Grillet ou je sais pas qui. Hein,
oui.
ça reste quand même, en général, plutôt assez stéréotypé.
C'est-à-dire qu'il y a du mouvement,
mais voilà,
en fait,
c'est un personnage comique. Parfois, les bandes dessinées sont l'occasion de rire sur les mécaniques de jeux vidéo ou des choses comme ça. Mais d'une certaine façon, le personnage devient un petit peu multiple parce qu'il est développé de manière synchronique et diachronique, en même temps sur différents supports par différentes personnes. Et il va parfois poser des problèmes à ceux qui ont la tâche de développer ces contenus. Moi, j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec un des deux co-scénaristes du film Super Mario Bros., dont vous avez passé un extrait de la bande-annonce, il s'appelle Parker Bennett. Et Parker Bennett, moi, la première question que je lui ai posée, c'est pourquoi l'action se passe à New York? Et mon hypothèse, c'était que c'était Donkey Kong, la raison. Donkey Kong, de fait, charriait l'imaginaire de New York. Et quand je lui pose la question, il me répond très simplement, vous savez, à Hollywood, chez les scénaristes, quand un personnage est italo-américain, il est de Brooklyn. Et donc, d'une certaine façon, lui a appliqué des recettes, il a appliqué des stéréotypes qui sont ceux propres à l'écriture et à la production audiovisuelle. Ce qui fait que ce Super Mario Bros. Est un film, en effet, assez bizarre, dans une esthétique presque un peu néo-noire à certains moments. Il a été confié à un duo de clippers britanniques, je crois, des gens qui venaient du clip, du vidéoclip, et qui en ont fait une sorte de version un peu, voilà, entre le néo-noir et le cyberpunk, qui, évidemment, ne colle pas du tout à l'image qui se développe en parallèle dans les jeux vidéo.
Mais vous, ce film vous a plu, Alexis Blanchet, parce que vous étiez déjà fan de Mario, sur ces rapports entre jeux vidéo et cinéma sur lesquels vous avez écrit. Il y a une transposition qui parfois est vraiment glissante, parce que comment construire un récit, comment faire des dialogues, comment penser une psychologie, même en termes de mouvement, de jeu d'acteur, c'est pas du tout la même chose de penser un avatar que les joueurs vont eux-mêmes animer, et puis un personnage qui va s'animer de lui-même, auquel on va donner une substance.
Oui, on est dans deux logiques différentes. D'un côté, on a besoin d'une trame narrative un peu prétexte pour un jeu vidéo, mais c'est pas l'essentiel. C'est pas les gens, quand ils jouent à un jeu Super Mario, ils viennent pas s'intéresser à l'histoire de Super Mario. Non, ils veulent des défis, ils veulent avoir des expériences, des sensations, de sauts, de maîtrise de l'avatar. C'est ça qui fait le plaisir d'un jeu vidéo Mario, un jeu vidéo de plateforme. Dans un film de cinéma, on va voir des péripéties, un personnage, des relations qui peuvent être intéressantes. On sait même que Bob Hoskins, qu'on avait découvert dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui joue Super Mario dans le film, n'avait découvert qu'après coup qu'il était en train de tourner, enfin qu'il avait tourné une adaptation d'un jeu vidéo. Et Parker Bennett m'explique que quand il se met à la réécriture du script, il sait pas du tout ce que sont les jeux vidéo Mario, donc il demande à la production d'avoir les derniers jeux Mario en date. On lui amène une console Super Nintendo, c'est le fameux jeu avec Yoshi, où le petit dinosaure Yoshi apparaît, et c'est pour ça qu'on a toute une thématique de dinosaures qui apparaît dans le film de 93, précisément parce que d'une part cette thématique-là a été introduite dans le dernier jeu en date et c'est le jeu sur lequel ils ont travaillé, et d'autre part que 93 c'est l'année de la sortie de Jurassic Park et qu'on sait que tout ce qui va concerner les dinosaures risque d'intéresser le public, et c'est la conjonction de ces deux analyses un peu sectorielles d'une certaine façon qui aboutit et qui justifie une partie du développement du personnage dans un monde de dinosaures avec deux mondes et une faille temporelle entre l'époque des dinosaures et l'époque actuelle.
Donc ce que vous dites, Alexis Blanchet, c'est que finalement on a des attentes différentes. Un spectateur de cinéma peut regarder ce film avec Mario en étant satisfait ou insatisfait en tant que spectateur, peu importe ce qu'il sait en fait du jeu. Ce sont comme deux mondes imperméables.
Je pense que ça fait partie de choses aujourd'hui dans nos rapports à ce que j'appellerais la fiction industrialisée qui sont devenues presque banales.
Mais c'est décliné, développé, peu importe qu'on connaisse ou pas.
On a des développements qui se font de manière synchronique, donc un même personnage peut vivre en bande dessinée, vivre en jeu vidéo, vivre en film de cinéma, et d'une certaine façon, on a même des films de cinéma qui, de temps en temps, viennent nous permettre de résoudre ces problèmes-là. Si on regarde le dernier film Marvel autour de Spider-Man, c'est un film qui va rassembler, à un moment de son récit, l'ensemble des interprètes qui ont joué Spider-Man depuis 20 ans. Donc, d'une certaine façon, Mario, il existe dans différents états. Il y a différents états de la fiction Mario. Alors, certains qui vont se poursuivre, certains qui d'ailleurs relèvent d'un canon. Quand vous allez sur le site de Nintendo aujourd'hui, il n'est plus du tout question de présenter Mario comme un charpentier ou comme un plombier, ce qui était le cas dans les années 90. On dit que c'est quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses. Voilà.
Et qu'il c'est aime... ultra banal, ultra large, ça veut rien dire.
Ça veut rien dire. Alors ça n'enlève pas toute l'interprétation qu'on peut avoir du personnage. Oui. Moi, j'ai plutôt goût à le penser comme une sorte de prolétaire qui est un
petit bonhomme débrouillard,
un petit ouvrier, voilà, débrouillard, et puis qui va affronter le mal, etc. Chez Nintendo, on a décidé d'effacer toute cette idée de charpentier qui était même un propos qu'on avait de la voix de Miyamoto tout à l'heure dans l'archive, pour dire non, c'est quelqu'un qui a différentes activités dans la vie et qui aime être entouré de ses amis. C'est grosso modo la définition canonique qu'en donne Nintendo pour définir son personnage.
Est-ce que c'est ça qui fait d'ailleurs que Mario, c'est un mythe ? C'est-à-dire qu'en fait, il a une telle plasticité finalement. Vous le voyez de cette manière-là, moi je vais le voir autrement, Nintendo va le vendre autrement. Le fait qu'il soit transmédiatique sur plein de médias à la fois, le fait qu'on peut dire que c'est un qu'il représente juste un sauveur ou un petit mec débrouillard, ou alors au contraire un colonisateur, ou au contraire un mec qui aime bien faire des choses. Est-ce que c'est ça qui contribue au mythe de Mario ?
Alors, il faudrait ressusciter Roland Barthes et voir s'il
le mettrait
dans une mythologie moderne. Mais pour ma part, j'ai toujours pensé que le mythe était un récit explicatif du monde. Donc, je vois pas Mario comme un récit explicatif du monde. Je le vois plutôt comme une icône. Je le vois comme un personnage. Bah voilà, aujourd'hui, à une heure d'écoute de milieu d'après-midi sur France Culture, on parle de ce personnage. On n'aurait pas pu le faire il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on se serait dit, mais non, c'est pas un sujet. Les gens vont pas savoir de quoi on parle d'une certaine façon. Moi, je suis assez surpris qu'un joueur de football, Mario Balotelli, ou un ancien président de la Banque européenne, Mario Draghi, sont souvent appelés par les médias Super Mario. Super Mario revient aux manettes, Super Mario a marqué un but, etc. Donc ça, c'est des marqueurs probablement que Mario est une icône du jeu vidéo. Il a probablement personnifié le jeu vidéo dans les années 90, comme l'a fait Lara Croft par la suite, oui. Comme ont pu le faire, comme l'a fait Pac-Man au début des années 80, par exemple. Donc il y a parfois comme ça quelques personnages qui vont incarner le jeu vidéo en lui-même, et que aujourd'hui, il y a peut-être encore beaucoup de gens qui ignorent sur certains marchés ou territoires qui est Mario, mais dans le monde occidental, en tout cas, c'est un référent qui est suffisamment partagé pour le retrouver, utiliser.
Et même au-delà de ceux qui n'y jouent pas.
Voilà.
Enfin, de ceux qui y jouent, je veux dire.
Dans les Échos ou dans la Tribune pour parler de Draghi, ou dans l'Équipe pour parler de Balotelli.
Et donc, au-delà des joueurs, on pourra aller voir un nouveau Mario sur les écrans, un nouveau film d'animation qui va sortir en 2023.
Voilà. Il est annoncé, il est confié à le studio qui avait fait les Minions, donc probablement là on va retrouver un traitement qui va être plus canonique d'une certaine façon, ce qui va donner d'autant plus de valeur au film de 93, parce que voilà, il nous propose une version totalement incroyable, une relecture totalement incroyable et étonnante de Mario. Le film est parfois diffusé et vous pouvez le trouver sur des endroits un peu recommandables sur internet, mais il mérite d'être vu.
Merci beaucoup Alexis Blanchet. De vous, on peut lire, donc coécrit avec Guillaume Montagnon, une histoire du jeu vidéo en France 1960-1991, des labos aux chambres d'ados, les jeux vidéo au cinéma, paru aux éditions Armand Collin, des pixels Hollywood, cinéma, jeux vidéo, une histoire économique et culturelle, paru aux éditions Pix & Love. C'est là aussi qu'on trouve d'ailleurs une histoire du jeu vidéo en France. Et puis je signale aussi l'histoire de Mario en 2 volumes de William Oduro aux éditions Pix & Love. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À l'école, 0 au piano, j'y prends à fond des jeux vidéo. Je laisse tout tomber, le skate, le roller, c'est comme un virus à l'intérieur. Tactique logique dans ma tête, ça clique, ça split dans ma Logitech. Mon père c'est un fan, il est plutôt cool, mais ma mère, elle a les boules.
Je suis le king des video games. Mon fric m'est-il depuis Noël? J'ai tout craqué en logiciel. Même plus 20 francs pour le ciné. C'est Spider-Man qui m'a ruiné. J'éclate, j'pirate les Game Boy. La nuit j'm'inscris, bonjour Billy. Je piège tous mes rêves, tous mes ennemis. Sans mégaphonie, la nuit m'ennuie.
Je suis le king des video games.
Et voilà, c'est fini Mario Bros. On se quitte sur Holy Flip Video Game. Merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand, Lord à l'Est, réalisation Louise André, prise de son. Ah, on le retrouve, Jean-Guilain Meige. On se retrouve demain pour Oser se demander. Connaissez-vous bien votre glande pinéale? Rien à voir donc. On se retrouve aussi sur les réseaux Twitter et Instagram, et bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans Oser le Demander, ou encore bien sûr sur l'application Radio France.